Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 11 octobre. 1500 personnes réunies hier place Bellecour à l'appel du CRIF pour soutenir Israël. Dans l'actualité également, la synagogue de la Duchère qui dépose plainte pour dénoncer des actes antisémites dont elle a été victime. La journée internationale du coming out, c'est aujourd'hui. L'association L'Autre Cercle et Ipsos révèlent les résultats d'une enquête selon laquelle l'inclusion des LGBT+ en entreprise est devenue un sujet important pour 6 actifs sur 10. La métropole de Lyon lance l'Observatoire métropolitain de l'économie à impact. Et puis nous parlerons également, toujours en marge du salon Polutech, d'un chantier modèle du côté de Villeurbanne. La métropole est Enedis et Serpollet expérimentent en effet un chantier bas carbone. Explications et reportages dans cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1500 personnes réunies hier place Bellecour à l'appel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et ce pour soutenir Israël et son peuple face aux attaques perpétrées par le Hamas le week-end dernier. De nombreux élus avaient fait le déplacement, comme Grégory Doucet, le maire de Lyon, le président de la métropole, Bruno Bernard, mais aussi de nombreux élus, maires d'arrondissement et élus de communes alentours. Des slogans comme « Israël est éternel » ou « Je suis Israël ». Une sirène a été actionnée, les participants à la manifestation se sont alors couchés au sol pour marquer leur soutien aux nombreuses victimes. Les hymnes israéliens et français ont été entonnés. Le drapeau d'Israël avait été hissé un peu plus tôt dans la journée sur la façade de l'hôtel de ville de Lyon. Céline Ben-David-Nagar a disparu samedi en Israël. Elle se rendait à un festival techno. Son mari est père de leur bébé ainsi que sa famille sont sans nouvelles d'elle depuis 4 jours. Cette jeune femme est d'origine lyonnaise. Elle a entendu les sirènes et a voulu faire demi-tour. Avant d'être arrêtée, elle a prévenu son mari. Elle a cru voir arriver des soldats, mais il s'agissait sans doute de membres du Hamas déguisés. Depuis, plus de nouvelles. La voiture a été retrouvée criblée de balles, mais aucune trace de la jeune femme de 32 ans. Son mari, qui vit avec elle sur place, espère que son épouse et ses amis sont toujours vivants et ont juste été enlevés. Un comité de soutien a été créé en Israël pour tenter de la retrouver. Et puis la synagogue de la Duchère a déposé plainte pour dénoncer des actes antisémites dont elle a été victime. Dimanche, en fin de matinée en particulier, un groupe d'individus aurait craché en direction de la synagogue et aurait crié « Allah Akbar ». Les préfectures ont reçu l'ordre de protéger les synagogues et les écoles juives.
Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
La journée internationale du coming out, c'est aujourd'hui. L'association L'Autre Cercle et Ipsos révèlent les résultats d'une enquête selon laquelle l'inclusion des LGBT+ en entreprise est devenue un sujet important pour 6 actifs sur 10. 71% des Français pensent que l'entreprise doit tout faire pour favoriser l'inclusion LGBT+. Un salarié LGBT sur 2 n'a pas fait son coming out en entreprise. Certains ne souhaitent pas être visibles, mais d'autres craignent un environnement discriminant ou une peur de ne pas bénéficier de promotion, par exemple. Certains iraient même jusqu'à quitter leur entreprise. 70% des salariés jugent bénéfique la mise en place de dispositifs d'alerte en cas de discrimination ou de harcèlement. La métropole de Lyon lance l'Observatoire métropolitain de l'économie à impact, annonce faite à l'occasion du salon Polutech qui a démarré hier à Eurexpo. Objectif, rendre compte de la contribution des acteurs économiques aux problématiques sociales, environnementales et économiques à travers une quarantaine d'indicateurs, 3 thématiques, inclusion et justice sociale, viabilité environnementale et soutenabilité économique. Les objectifs, la baisse de 30% de consommation énergétique entre 2000 et 2030, une baisse de 43% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2033 ou encore une réduction du taux de pauvreté sur le territoire pour accélérer la transformation des entreprises, des process productifs, mais aussi créer des coopérations vertueuses. La métropole de Lyon, Enedis et Serpollet expérimentent un chantier bas carbone à Villeurbanne. C'est en quelque sorte le chantier modèle pour les années à venir. Il vise à moderniser le réseau de distribution électrique entre Charpennes et République. Sur place, des engins pour excaver de la terre, des restrictions de circulation, des difficultés d'accès pour les riverains. Mais là, tout a été fait pour limiter l'impact du chantier. Des réunions préalables, des affichettes à poser dans le quartier pour informer. Et au-delà, il s'agit bien sûr de limiter l'impact carbone de ces chantiers appelés à se développer au de coin de la métropole. Philippe Gelpa-Bonaro, vice-président du Grand Lyon Climat Énergie.
Une partie des vieux câbles qui sont dans l'huile sont sensibles, sont thermosensibles, c'est-à-dire que quand la température dépasse les 35-40 degrés, on a un risque de coupure qui s'accroît fortement parce que l'huile, elle bouille. Alors, ça fait un peu friture sous la chaussée. Et on a un enjeu donc de remplacer le plus vite possible ces réseaux de câbles. C'est exactement le cas sous cette placette autour de ce rond-point. Il y a pas mal d'endroits où on doit encore le faire sur Lyon et sur le territoire de la métropole de Lyon. Il y a tous ces chantiers qui vont devoir s'accroître dans les années à venir. Si on peut réduire individuellement leur empreinte carbone, c'est gagné et j'ai même envie de dire que c'est nécessaire.
C'est aux entreprises de faire d'être force de proposition en la matière. Tout à l'heure, vous avez parlé non pas d'écologie à la française, mais à la lyonnaise.
La lyonnaise, oui, mais c'est un peu moi, c'est ce que j'appelle la transition écologique à la lyonnaise. C'est quand il n'y a pas que les collectivités ou les citoyens qui s'engagent et qui exigent des choses de la part des entreprises ou des institutions, mais c'est justement quand les entreprises elles-mêmes nous proposent son fer de lance de la transition écologique pour l'empreinte carbone, pour l'économie circulaire. C'est beaucoup plus facile pour la collectivité d'imposer des règles dans le fonctionnement des chantiers ou dans d'autres chantiers, dans d'autres opérations, quand une entreprise nous a prouvé que c'était possible et nous l'a montré in situ. Quand ça n'existe pas, quand ça n'a jamais encore été testé, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Serfim, Serpollet et Enedis, sur le territoire de la métropole de Lyon, sont très avant-gardistes sur tous ces sujets de transition écologique.
Pour limiter l'empreinte carbone des chantiers de Ouari, la métropole Enedis et l'entreprise Serpollet de Vénissieux se sont mis autour de la table pour actionner différents leviers. Un gain de 36% en émissions carbone est attendu grâce à différentes mesures qui vont de l'utilisation d'engins électriques à la réutilisation in situ des matériaux excavés. Élise Cabrol, directrice territoriale d'Enedis.
On a un enjeu à réduire l'empreinte carbone de nos chantiers pour atteindre l'ambition de neutralité carbone en 2050. Comment on fait ? Déjà, on travaille en collectif. C'est indispensable. Et c'est ce qu'on a pu mettre en valeur aujourd'hui en travaillant en collectif avec notre Enedis en tant que donneur d'ordre, Serpollet en charge de la réalisation des travaux et également la métropole de Lyon et son laboratoire de la voirie pour pouvoir retenir à tout niveau les meilleures pratiques et qui permettent de baisser l'empreinte carbone tout en étant facile à mettre en œuvre.
Alors, il y a trois axes.
Trois axes, effectivement. Le premier levier qui a été actionné par Serpollet, c'est-à-dire la mobilisation de véhicules électriques et d'engins électriques sur le chantier pour baisser l'utilisation de fuel et remplacer cette utilisation de fuel par de l'électricité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir se questionner pour mettre en œuvre un réemploi in situ des remblais et éviter par là même le fait de mettre au rebut des matériaux et de les remplacer par des matériaux neufs, de surcroît en mobilisant des véhicules pour transporter ces matériaux. Et le troisième volet, c'est d'avoir pu mettre en œuvre une réfection définitive de la chaussée sans passer par l'étape intermédiaire de réfection provisoire et a fortiori de mettre en œuvre un revêtement définitif de la chaussée bas carbone. Voilà les trois axes qui ont été mis en œuvre et qui ont permis de baisser l'empreinte carbone du chantier de 36%.
Est-ce que ça compte vraiment dans les rejets carbone ce type de chantier ? Ça pèse combien ?
Oui, ça compte. Aujourd'hui, l'empreinte carbone d'Enedis est imputable à plus d'un tiers aux chantiers qui sont réalisés. Le chantier qu'on a visité aujourd'hui, c'est 5 tonnes d'équivalent carbone qui ont été dépensées. Si on avait mis en œuvre des techniques classiques, ça aurait été 8 tonnes qui auraient été mises en œuvre. Vous voyez, en travaillant en collectif entre Enedis, Serpollet et la métropole de Lyon, c'est 3 tonnes d'équivalent carbone qui ont été économisés et ça compte.
C'est quoi les freins aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a des pratiques un peu historiques et qu'il faut, celles du 20e siècle, et aujourd'hui, il faut qu'on se modernise collectivement en tant que, alors évidemment, les prestataires travaux à travers le matériel mis en œuvre, mais également nos pratiques pour favoriser finalement le recyclage dès que possible des remblais et éviter la mise en œuvre systématique de réfection provisoire.
La limite aussi, c'est le matériel, c'est les engins de chantier. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à en trouver aujourd'hui.
C'est les engins de chantier. Pour autant, je suis convaincue que c'est un marché en croissance, en devenir. Il y a une demande et on travaille main dans la main avec les fournisseurs d'engins pour qu'ils puissent développer des outils qui répondent aux besoins et finalement à la commandite de leurs clients.
Serpollet emploie 400 personnes sur la métropole. L'entreprise, à l'origine du groupe Serfim, fait de plus en plus appel à des engins électriques pour mener ses chantiers. Mais cela impose certaines contraintes. Sébastien Bonnet, président de l'entreprise.
La machine que vous avez sous les yeux, là, qui est une machine qui est un peu un cas particulier, parce que c'est une machine gasoil à l'époque, dont le moteur était démonté et remplacé par un moteur électrique, donc rétrofité. Là, vous avez malheureusement que 2 heures de temps de travail, donc vous êtes obligé à charger tous les 2 heures. Contrairement à la machine, en fait, celle que vous avez vue travailler, là, qui est opérée actuellement, elle a 6 heures d'autonomie. Donc par contre, il faut s'assurer que le lendemain matin, dès qu'on arrive sur le chantier, elle soit vraiment chargée. 6 heures, c'est bon an mal an le nombre d'heures de travail effectif de la machine. Donc là, ça marche. Mais par contre, il faut que la machine soit chargée opérationnelle dès le lendemain matin. Et on ne peut pas se la permettre de la ramener à notre dépôt. Donc il faut qu'elle charge in situ pour éviter les va-et-vient et du coup les transferts en camion. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Malgré tout, après, vous avez deux manières d'aborder les choses. Soit vous êtes un peu réfractaire et vous prenez la machine et vous respectez. Soit vous essayez d'imaginer comment globalement on peut organiser vos chantiers complètement différemment. C'est ce qu'expliquait notre conducteur de travaux, Alexis Noyel. Vous avez par exemple des batteries pour recharger qui sont utiles aux appareils de découpe, aux feux tricolores, etc. Vous voyez, tout est préparé dans le bungalow pour recharger. Vous voyez, c'est raccordé directement au réseau. Donc ça nous oblige en fait à changer un peu notre méthode de travail et notre manière de voir les choses. Donc si vous frontalement vous pensez que la machine électrique va faire la même chose que le gasoil, en fait vous vous trompez. Il faut complètement changer le scope de travail. Après, ce qu'il faut aussi penser sur la décarbonation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une vision globale. La machine, c'est un pilier de la décarbonation, mais pas que. Les matériaux en sont un autre. Dans les rues de Lyon ou de la métropole, le règlement de voirie nous oblige en fait à extraire le matériau, l'emmener dans des décharges et ramener du matériau neuf. Donc là, il y a encore un gros boulot à faire avec la collectivité pour faire évoluer en fait les mentalités, sécuriser aussi la voirie sur sa qualité de réfection, etc. C'est pareil également sur les enrobés. Donc c'est vraiment tout un travail global. On l'a eu fait précédemment également sur les bétons, où on peut faire des travaux avec des bétons bas carbone. Effectivement, les gains sont notables, très importants. Mais aujourd'hui, effectivement, les surcoûts sont pour l'instant assez prohibitifs et difficilement, acceptés par les collectivités ou par les concessionnaires. Donc tout ça doit se maturer et moi j'insiste sur le fait qu'il faut avoir un raisonnement global en fait dans la décarbonation d'un chantier et pas que sur la machine électrique.
Enedis vise une réduction de 20% de ses émissions de carbone d'ici 2025 en vue d'atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2050. Les pratiques expérimentées sur le chantier de Villeurbanne ont vocation à être rapidement industrialisées pour participer à l'effort climatique. La faible pluviométrie du mois de septembre n'a pas suffi à améliorer la situation des cours d'eau. La préfecture a pris un arrêté qui place l'axe Saône en situation de crise sécheresse. Cette décision vient renforcer les mesures prises par l'arrêté du 6 septembre dernier. La préfecture appelle les citoyens à être très vigilants quant à l'utilisation des ressources en eau. Le passage en crise priorise les usages pour la santé, la salubrité, la sécurité civile, l'alimentation en eau potable et l'abreuvement des animaux. Les usages domestiques, parmi lesquels figurent des usages des collectivités, sont majoritairement interdits. Les usages économiques, agricoles, industrie sont fortement limités, voire interdits. Des interdictions concernent essentiellement l'arrosage des espaces verts publics ou privés, l'arrosage des potagers domestiques en journée de 9h à 20h, interdit également l'arrosage des espaces sportifs publics ou privés, le lavage des véhicules à domicile et dans les stations-service, ou encore le lavage des façades et des toitures, ou encore le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert. Parmi les communes concernées le long de l'axe Saône figurent Ans, Arnas, Chasselet, Collonges-au-Mont-d'Or, Fontaine, Neuville, Rochetaillé, Saint-Germain, Saint-Romain ou encore Villefranche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes.